Alors, il me semble que tout le monde est au courant de ce qu'on va, du texte qu'on va étudier ensemble ce matin. Mais il y a 10-15 ans de ça, j'ai fait de l'escalade en milieu naturel, un mur naturel, une falaise. Première fois pour moi. Bon, j'avais fait le petit truc en gymnase, hein, mais c'est pas la même chose. Et je sais pas qui a déjà fait de l'escalade comme ça sur une falaise. Mais arrivé en haut, c'était largement assez haut pour bien avoir peur, hein, qu'on regarde en bas, et on ne pouvait pas voir les gens avec qui on était monté, donc qui étaient restés au sol, qui nous assuraient. Parce que la falaise était un peu inclinée comme ça, ou je ne sais pas pourquoi, mais on ne les voyait pas arriver en haut. Et pour redescendre, il y avait une seule solution, ben, descendre en rappel. Vous connaissez un peu le rappel ? C'est on se tourne dos vers le bas, et hop, on se lance dans le vide, et notre binôme qui nous attend en bas, il nous voit, et hop, il commence à nous assurer, il tire sur la corde, et hop, on descend le long du mur comme ça, et il n'y a pas de problème. Mais pour faire ça, quand on ne voit pas son binôme, peut-être qu'il est en train de discuter avec un copain, et il ne voit même pas que je me lance dans le vide, il faut vraiment avoir une grande confiance en son binôme, qui n'est pas en train de rigoler là, qui s'est pas détaché et qu'il est parti boire un café, mais qu'il est vraiment là et qu'il est prêt à nous assurer. Et dans la vie chrétienne, notre relation avec Dieu revient sans cesse à cette question. Est-ce que je peux vraiment lui faire confiance? Est-ce que je crois ce que Dieu a dit? Ai-je foi en ses promesses? Va-t-il tenir ses engagements? Intellectuellement, si on est chrétien, on sait que dans tout l'univers, il y a une seule personne qui est capable de dire quelque chose et de véritablement toujours accoucher sur ses promesses, c'est le Dieu créateur de l'univers. Intellectuellement, on le sait. Mais dans la pratique, pour tous les chrétiens, et si on regarde dans l'histoire de la Bible, pour tout le peuple de Dieu toujours, ça a été un sujet, une question qui revient sans cesse. Est-ce qu'on peut faire confiance à Dieu? Parce qu'on passe par des moments très très difficiles et on est tenté de trouver nos propres solutions, nos propres combines. On passe par des moments faciles peut-être aussi, mais là encore on passe par un choix. Est-ce qu'on fait confiance à Dieu ou est-ce qu'on doute? Est-ce qu'on remet en question? Est-ce qu'on se demande mais est-ce que j'ai bien compris? Ça revient tout au long de notre vie chrétienne. Ça peut être des choses comme changer de travail, réduire ses heures de travail pour avoir plus de temps pour la famille ou pour un ministère à côté. Ça peut être des questions de carrière, d'études. Ça peut être des questions de conjoint. Combien de couples choisissent de sortir avec un non-chrétien parce qu'ils préfèrent être mariés avec un non-chrétien que pas mariés du tout et ils mettent en doute que Dieu pourrait pourvoir ou Dieu pourrait les satisfaire dans leur célibat. La question de confiance revient constamment dans notre vie chrétienne. Et ce thème revient dans le psaume qu'on va regarder ce matin. Alors, est-ce que je peux avoir un peu moins de retour, s'il vous plaît? Parce que moi, j'ai l'impression d'être très, très, très fort. Alors, si je suis trop fort, vous me dites. Hein. Mais on va regarder le psaume le plus connu et le plus aimé de la Bible, il me semble. C'est le psaume 23. C'est d'ailleurs le chapitre de la Bible qui est sans doute le plus connu par cœur. Je ne sais pas combien ici le connaissent par cœur, mais enfant, on l'apprend tous à nos enfants, j'imagine. C'est vraiment un classique de classiques. Et pourtant, ça fait toujours du bien de revenir à ces classiques. C'est pour ça que ce sont des classiques. On peut toujours revenir et redécouvrir des choses. Alors, on va lire le psaume 23. Ces 6 petits versets. Psaume 23. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette phrase, l'Éternel est mon berger, explique tout le psaume. Si on comprend qui est Dieu, la beauté de l'image du berger et la puissance d'avoir lié Dieu et l'image du berger ensemble, on a tout compris de ce psaume. Si l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. C'est l'idée centrale que développe donc le roi David qui a écrit ce psaume, Si l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Alors combien ici sont bergers de formation ou de profession? Ouais, c'est ce que je me disais, aucun. Et pourtant, l'image du berger, même 3000 ans après, peut continuer de nous parler. Dans toutes nos cultures, on a encore des personnes qui s'occupent d'animaux. Et le berger, c'est en grande partie à cause de notre culture chrétienne aussi, mais le berger, c'est une image qui reste, qui nous parle encore. Dire que l'Éternel est notre berger, c'est souligner la relation proche et intime qu'a David avec le Dieu de l'univers. Comme l'a expliqué quelqu'un, le berger vit avec son troupeau. Il est tout pour son troupeau. Il est un guide, un médecin, un protecteur. Et moi, je rajouterais une maman. Un troupeau sans berger n'a aucun espoir de survie. Et même s'il avait un mauvais berger, leurs chances de survie sont très mauvaises. Le berger est essentiel pour le bien-être du troupeau. Mais ici, ce n'est pas juste un berger quelconque qu'a David. David dit que le Dieu de l'univers, l'Éternel, est son berger. Si ce psaume est plein de confiance, ce n'est pas juste parce que David est un homme de foi, c'est plutôt parce qu'il sait en qui il met sa foi. Si l'Éternel est son berger, alors là, il peut faire confiance en son berger. C'est pour ça que ce psaume commence « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai donc de rien. » Comme quand on doit descendre en rappel et qu'on se demande si la personne qui nous assure va faire son boulot, l'identité du binôme fait toute la différence. Ici, le binôme, c'est Dieu. Si l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Le Dieu créateur des galaxies, celui qui a parlé et les galaxies sont créées, ce Dieu-là est notre berger. Peut-être juste une mention par rapport à « je ne manquerai de rien ». Je pense qu'on lit le psaume en entier, on réalise que ce n'est pas « je ne manquerai de rien toute ma vie, je n'aurai aucun manquement », mais plutôt « je ne manquerai de rien que le berger estime utile pour moi ». Parce qu'il y aura des moments où il aura soif, où il y a des moments où il aura faim, il y a des moments où il va passer par des dangers, et quand on passe par des dangers, on va se dire bah, « j'avais besoin de protection et j'étais en danger ». Donc il y a des moments où on aura des besoins. Mais là, quand David est en train de parler « je ne manquerai de rien », j'ai l'impression qu'il est en train de dire « je ne manquerai de rien que tu estimes nécessaire pour moi ». Si l'Éternel est notre berger, on peut lui faire confiance que lui, il sait ce qui est bon pour nous et à quel moment c'est bon pour nous. Alors, ce matin, on va voir cet encouragement. On va voir dans la première partie, on va découper le psaume en deux. On va voir dans la première partie quatre raisons pour lesquelles ce berger est digne de confiance. D'accord ? Donc quatre raisons pourquoi le berger, pour lesquelles le berger est digne de confiance. Et ensuite, on va regarder trois aspects encourageants de la fête que nous prépare l'Éternel. D'accord ? Donc première partie, quatre raisons pour lesquelles l'Éternel est un berger digne de confiance. Alors, première raison, verset 2, c'est que l'Éternel, ce berger, connaît et subvient à nos besoins physiques. Les deux premières vérités sont très apaisantes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux tranquilles ou paisibles. Dieu recherche activement notre bien dans ce psaume. On ne trouve pas de l'herbe verte par hasard en montagne. On ne découvre pas de l'eau fraîche au détour d'un cactus dans le désert. Dieu, tel un berger, subvient activement à nos besoins. Il désire le bien pour nous et nous y conduit. Il nous donne le repos. Alors le besoin est quelque chose que beaucoup d'entre nous, on ne connaît plus. Quand je dis j'ai besoin d'un nouvel ordinateur, en fait je suis en train de dire j'ai envie d'un nouvel ordinateur. Nos besoins, on les confond beaucoup avec nos envies. Mon père, il a grandi dans les années 60. Son père, donc mon grand-père, était pasteur d'une église dans le Nord-Pas-de-Calais et en même temps évangéliste pour les peuples slaves, donc en Ukraine, en Pologne, en Biélorussie et tous ces pays qui étaient communistes à l'époque. Donc mon grand-père était souvent en voyage. La famille vivait de peu et il vivait en France pendant qu'il était en voyage. Et mon père raconte combien souvent c'était justement durant les déplacements de mon grand-père que la famille manquait le plus du nécessaire. Et mamie venait parler aux garçons. Donc mon père est le deuxième de 8 garçons. Donc une famille qui mangeait beaucoup. Et mon père raconte comment mamie venait parler aux garçons et leur dire, bon, les garçons, on n'a plus rien à manger aujourd'hui. Et il faut qu'on prie que Dieu nous donne à manger. Et ensuite, il priait. Et ensuite, il faisait le tour de la maison. Il vidait les poches. Il soulevait les coussins du divan pour trouver des pièces, les francs qui traînaient pour aller pouvoir acheter des choses. Et la réponse aux prières la plus mémorable, bon, en tout cas qui se rappelle, c'est un jour où ils ont prié comme ça. Et puis quelqu'un a sonné à la porte. Et c'est un monsieur qui connaissait vaguement, mais qui avait apporté un panier. Il a dit voilà, et puis il est parti. Et le panier était rempli de viande du boucher, mais un grand panier. Et il a fait ça plusieurs semaines, sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Ils avaient prié pour du pain, et Dieu leur a donné de la viande. Et ce genre de besoin nous est inconnu pour la plupart d'entre nous. Mais je sais que ici, dans notre ville, on a certainement des personnes qui vivent dans le besoin, des sans-papiers, des personnes qui vivent au jour le jour. Dans nos grandes villes, il y en a beaucoup. Et d'autres, peut-être dans l'église, qui vivent aussi comme ça, en galère. Et à ces personnes-là, ce psaume peut être un rocher. Dieu recherche activement notre bien, même à combler nos besoins physiques. Une deuxième raison pourquoi Dieu est un berger digne de confiance, c'est au verset 3. On voit deux aspects de cette deuxième raison. Verset 3, « Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Alors si David ne parle ici que de brebis, il s'agit de faire revenir les brebis qui s'égarent et de les conduire sur les bons chemins. Il les restaure leur âme. Il est conduit dans les bons sentiers. Mais s'il parle aussi de sa relation avec Dieu, on peut voir plus largement. Il restaure mon âme, parle du renouvellement spirituel. Il me redonne vie. Et les chemins de la justice, c'est il m'aide à garder ses commandements, à marcher selon sa loi. Alors c'est une des nombreuses joies de la vie d'église, il me semble, c'est de voir la transformation que Dieu opère dans la vie de quelqu'un quand il devient chrétien. J'ai travaillé 3 ans avec une organisation chrétienne sur un bateau et je m'entendais vraiment pas du tout avec un soudeur. Je trouvais arrogant, fainéant, je me souviens plus trop, désagréable et c'était pas facile. On devait travailler ensemble de temps en temps. Jusqu'au jour où on est parti ensemble présenter le ministère dans une église et il a donné son témoignage, comment il était devenu chrétien. Et quand j'ai réalisé le parcours que Dieu lui avait déjà fait faire, d'où il venait, j'ai vu la transformation que Dieu faisait dans sa vie et tout d'un coup j'étais beaucoup plus compréhensif envers ce frère pour me dire waouh, la grâce de Dieu est vraie, est réelle dans ta vie. Ouais, effectivement, il y a encore des choses un peu rugueuses, mais c'est incroyable ce que Dieu fait dans ta vie. Et franchement, disons-le, où serions-nous si Dieu ne nous restaurait pas notre âme, si Dieu ne venait pas nous chercher et nous montrer le bon chemin? C'est pas très flatteur du tout d'être comparé à des moutons. Alors, il n'y a aucun berger ici, donc je risque rien en disant ce que je vais dire là. Mais je l'ai appris de berger, donc techniquement ça doit être juste. Moi j'ai grandi dans une ferme avec quelques moutons, mais je ne peux pas généraliser de ces quelques moutons, des moutons en général, mais ils sont bêtes, très très bêtes. Ils ont tellement besoin d'aide. Ils tombent facilement malades et ils ne disent rien, simplement ils vont être malades et puis du jour au lendemain ils meurent. Ils s'égarent, il paraît même qu'ils peuvent perdre équilibre. Les plus gros d'entre eux peuvent perdre l'équilibre, tomber sur leur dos, les 4 pattes en l'air, et ils ne peuvent pas se redresser, sauf si un berger vient et puis hop, les remet sur pattes. Alors si on est comparé à des brebis, c'est pas forcément flatteur du tout pour nous. Où serions-nous si Dieu ne nous conduisait pas dans les bons chemins? On prend si rapidement des voies sans issue, on s'embourbe dans ce péché-ci, ce péché-là, mais l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Donc il subvient nos besoins physiques, il subvient nos besoins spirituels. Une troisième raison pourquoi Dieu est digne de confiance, pour laquelle Dieu est digne de confiance, c'est qu'il est motivé par sa gloire. Alors celui-là va un peu surprendre peut-être certains, mais Dieu est un berger digne de confiance parce qu'il est motivé par sa gloire. Et ce n'est pas moi qui l'invente, c'est ce texte qui le dit, et toute la Bible qui le dit. Pourquoi Dieu fait-il tout cela? Pourquoi est-il si bon? La motivation de Dieu est dans ce texte. Il fait cela, verset 3, dernière phrase, à cause de son nom. La Bible entière affirme que Dieu est la personne de tout l'univers la plus centrée sur Dieu. Certains, en lisant la Bible, trébuchent à cette idée que Dieu est la personne la plus théocentrique de l'univers. Ils disent, mais comment c'est possible? Comment Dieu peut-il réellement nous aimer s'il s'aime lui-même plus que nous? Cette vérité nous pose problème parce qu'on la transpose à notre échelle. On le regarde comme des êtres humains, c'est difficile de le faire autrement. Quelqu'un qui s'aime trop n'est pas agréable. Quelqu'un qui ne parle que de lui-même, de ses exploits, devient vite imbuvable et on veut l'éviter. Mais Dieu n'est pas comme ça. Chez l'homme, son amour de lui-même le rend aveugle aux autres. Chez Dieu, son désir de se glorifier est exactement ce dont on a besoin en tant qu'être humain. Car nous sommes tous créés avec des désirs. On est des petites usines à désirs. Et ce désir est énorme de l'être humain, du cœur de l'être humain. Et il ne peut pas être satisfait par quoi que ce soit, mis à part Dieu lui-même. Et donc c'est pour ça qu'on passe d'un achat à l'autre, on passe d'une conquête à une autre, on passe d'un projet à un autre, et on ne sera jamais satisfait jusqu'à ce qu'on rencontre Dieu. Et donc quand on dit que Dieu fait tout pour se glorifier, c'est une bonne nouvelle. Parce que nous, on a besoin de voir Dieu pour être satisfait, pour être heureux. Et lui, son désir est justement de se glorifier pour qu'on soit heureux, pour qu'on puisse être satisfait en lui. C'est parce qu'il nous aime qu'il se glorifie. C'est donc une très bonne chose que Dieu soit motivé par sa propre gloire. Et c'est ce psaume qui nous le dit. Ce classique nous signale que si Il nous conduit dans les sentiers de la justice. S'il restaure notre âme, il le fait à cause de son nom. Je vais vous donner un autre psaume. Le psaume 106 nous montre que la gloire de Dieu et notre bonheur se concilient. Le psaume 106, on peut le regarder ensemble. Psaume 106, à partir du verset 6, raconte l'histoire du peuple de Dieu, d'Israël, qui était exilé en Égypte, prisonnier, esclave. Verset 6 du psaume 106. Nous avons péché comme nos pères, nous avons commis des fautes, des méchancetés. Nos pères en Égypte n'ont pas discerné tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes actes bienveillants. Ils furent rebelles près de la mer des joncs. Mais il les sauva à cause de son nom, pour faire connaître sa puissance. Il menaça la mer des joncs. Elle se dessécha et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Il les racheta de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leurs adversaires. Il n'en resta pas un seul. Ils crurent à ses paroles. Ils chantèrent sa louange. Voyez-vous, Dieu obtient dans cette histoire, dans ce psaume, la gloire pour sa grande délivrance. Et le peuple de Dieu, lui, obtient la libération de l'esclavage. C'est gagnant-gagnant. Dieu fait tout pour sa gloire et se glorifie. Et Dieu, en agissant de cette manière, pour sa gloire, libère son peuple d'esclavage. Et de la même manière, Dieu a fait ça pour notre salut. Quand il nous a sauvés de nos péchés en Jésus, il l'a fait pour sa gloire et il l'a fait pour notre bonheur. Alors résumons. Dieu est un berger qui recherche activement notre bien. Il subvient à nos besoins physiques. Première raison, pourquoi il est digne de confiance. Deuxième raison, il nous restaure spirituellement. Troisième raison, il est motivé par sa propre gloire. Il nous conduit dans les sentiers de la justice. Oui, donc, deuxième raison, il nous restaure spirituellement, c'est-à-dire, il nous conduit dans les sentiers de la justice. Il nous restaure, il nous rafraîchit, et il nous conduit dans les bons chemins. Troisièmement, il fait tout pour sa gloire. Et on arrive à la quatrième raison, et une transition un peu bizarre dans le psaume. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on revient au psaume 23 là. David n'a pas plutôt dit que Dieu est le bon berger qui nous conduit sur les bons sentiers, hein, les sentiers de la justice, verset 3, qu'il enchaîne avec le moment le plus sombre de tout le psaume. Je lis le verset 4, 3 et 4, je vais lire. Non, je lis tout. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il vient de dire que tu me conduis sur les bons sentiers, et il enchaîne, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Comment est-ce qu'on est arrivé là, si c'est Dieu qui est en train de conduire mes sentiers? Et ça, c'est la quatrième raison pour laquelle Dieu est un berger digne de confiance, c'est qu'il est avec nous même dans les moments les plus difficiles, les plus terribles, les plus sombres de la vie. Moi, ça me fait, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait pleurer de lire ce texte devant une assemblée et de se dire, mais quelles sont les vallées de l'ombre de la mort pour une église, pour les membres d'une église? Des centaines de vies individuelles. Et on va tous passer par des choses terribles dans les années à venir. On est déjà passé par des choses terribles, difficiles. Et dans ces situations-là, David est capable de dire, « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Cette année, on a appris qu'un couple attendait un enfant pour la même date que notre Noah, même date d'accouchement, et que l'enfant n'allait sans doute pas vivre. car elle était sévèrement handicapée. Et le monde est tordu. Notre monde est vraiment va mal. On vit les conséquences de notre rébellion, notre indépendance de Dieu depuis le début. Hein. Cet été, j'ai célébré 2 mariages dans ma famille, des moments de fête heureux, tout en sachant qu'une membre de l'église est en train de mourir d'un cancer à l'hôpital. Je serrais Noah dans mes bras tout en téléphonant à une fille qui voulait avorter. J'essayais de la convaincre de ne pas avorter. Et j'avais mon fils de 2 mois dans les bras. Notre monde est tordu. Et on va passer par de nombreuses vallées de l'ombre de la mort. Où tout semble noir, sombre, difficile. Et ce psaume, on peut se le répéter. Ce psaume peut être un rocher dans ces moments-là. Je prie qu'on puisse tous dire dans ces moments-là, « Tu me conduis dans les justes sentiers à cause de ton nom, et donc, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. » David, je ne sais pas si vous avez remarqué, jusqu'à maintenant, il parlait de Dieu à la troisième personne. C'était « Il me fait, il me dirige, il me restaure, il me conduit. » Mais dans la vallée de l'ombre de la mort, il commence à tutoyer Dieu. Ça devient une prière, beaucoup plus personnelle. Le berger n'est plus loin devant en train de conduire un troupeau. Il est proche, très proche de sa brebis. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette pour faire revenir des brebis, ton bâton pour chasser l'adversaire, voilà mon réconfort. Dans les moments les plus terribles de la vie, Dieu promet d'être avec nous. Et face à la mort physique, si Dieu est notre Dieu, nous n'avons pas à craindre. Dieu est avec nous, même dans la mort. Alors comment avoir une telle confiance en Dieu? Parce que David, sa confiance est incroyable. Alors je vais parler de ça à la fin, avec une idée clé, il me semble. Mais là, j'ouvre une parenthèse. Un super moyen de s'aider à faire confiance à Dieu, c'est d'apprendre par cœur le psaume 23 et de nombreux textes pareils. Je ne sais pas, est-ce que vous avez un programme de mémorisation de la Bible? Même en église, si chacun, si une église se donnait un verset par semaine, c'est énorme sur l'année. Et un verset par semaine, ce n'est pas trop intimidant. Mais je trouve tragique combien de chrétiens, face à la vallée de l'ombre de la mort, sont incapables de s'aider du psaume 23 et d'autres textes hyper encourageants. Quelqu'un a fait la remarque que ce psaume s'accomplit en le récitant. C'est en le priant, on se rappelle les vérités essentielles. En le priant, on réalise que Dieu est véritablement notre berger en train de combler nos besoins essentiels, qu'il est véritablement notre rocher. Nous, un verset avec Anna, qui nous a beaucoup aidé l'année dernière, Isaïe 30, verset 15. Anna, on vivait de son mi-temps en Allemagne, j'apprenais l'allemand, j'étais encore au début de mon apprentissage, et puis elle était vraiment malade. Et puis chaque matin, on se demandait, mais comment on va tenir? Comment on va faire? Et le texte que je me récitais constamment, c'était Isaïe 30, verset 15, qui dit « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » C'est un verset que Dieu adresse au peuple d'Israël qui est face à un envahisseur venu d'Assyrie et eux ils sont tentés d'aller acheter des mercenaires en Égypte. Et Dieu leur dit « Votre salut et votre force se trouvent dans le retour et le repos en moi, dans le calme et la confiance en moi. » Et Israël ne l'a pas voulu. Et moi je me le récitais et je me disais « Mais oh, Père, aide-moi à te faire confiance. Aide-moi à me reposer uniquement en toi. » Parce que on avait plein de plans B, plans C, plans foireux en tête. Qu'est-ce qu'on peut faire? plutôt que simplement d'abord se dire, mais avant toute chose, Seigneur, on veut te faire confiance. Et ces versets comme ça, on en a besoin. Donc, je vous encourage, apprenons la Bible par cœur, les textes qui nous encouragent le plus, qu'on les ait toujours avec nous et qu'on puisse les ressortir dans les moments de la vallée de l'ombre de la mort. Ouais, récemment, on était chez des amis qui passaient par un grand moment de difficulté, de doute. On l'a pas réalisé en venant chez eux, on voulait juste prendre un café. Et au fur et à mesure, on a réalisé, wow, c'est chaud, qu'est-ce qui se passe là? Et on a lu le psaume 23 ensemble et on a tous commencé à pleurer ensemble et on a prié ensemble. Et ah, j'ai fait un super boulot de pasteur. Hein. Ah, ils ont pleuré et tout. J'ai rien fait. J'ai lu le psaume 23 avec eux et la parole a encouragé. On était tous encouragés à la fin de ce temps ensemble. Et c'était juste un psaume lu ensemble. Parce que Dieu veut qu'on revienne à lui et qu'on se repose entièrement en lui, notre bon berger. Alors, ça c'est la première moitié. La deuxième moitié est beaucoup plus courte. Après quatre raisons pour lesquelles Dieu est un berger digne de confiance, on va voir trois aspects encourageants de la fête qui se prépare. Un petit livre de méditation très connu sur le psaume 23 s'intitule « Un berger médite le psaume 23 ». Je ne sais pas si certains connaissent « Un berger médite le psaume 23 » de Philippe Keller. C'est un pasteur qui était berger durant 8 ans en Afrique du Sud et qui a écrit de son expérience. Et c'est un livre très bien, je le recommande, mais je ne le suis pas à ce niveau du psaume. Il met tout le psaume sous l'image du berger et il explique comment certains mots du psaume sont quand même du langage du berger, tout ça. Non, je pense qu'il y a beaucoup plus simple. Première moitié, on parle d'un berger. Deuxième moitié, on parle d'un roi qui prépare un festin pour ses sujets. Et ce n'est pas contradictoire avec le berger. Le berger, c'est dans toute la Bible, ça revient souvent que le berger, c'est aussi une image pour le roi, le leader, celui qui va de l'avant, qui dirige un peuple. Et là, c'est le roi qui prépare quelque chose pour son peuple. Alors, lisons les deux derniers versets. Verset 5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. » Alors ici, David parle de table, d'huile, de coupe. On est dans le langage du festin, de la fête. Alors c'est possible, comme je dis, que les brebis soient invitées à un festin, mais il me semble que c'est encore plus possible et probable que David est en train de méditer comment même dans la vallée de l'ombre de la mort, au verset précédent, il se souvient comment Dieu s'est toujours occupé de lui. Peut-être qu'il pense carrément à l'espoir qu'il a en Dieu après la mort. Dieu nous conduit, il nous dirige pour participer à une fête. Est-ce qu'on est conscient de ça? Une fête que Dieu organise, un banquet royal. Psaume 23, en disant que l'Éternel est notre berger, on dit qu'il est aussi notre roi. Il est celui qui nous dirige, tel un roi dirige son peuple. Et donc, trois choses encourageantes de ce festin. Tout d'abord, la fête est organisée par Dieu lui-même. C'est Dieu qui organise, qui accueille et qui sert dans cette fête. David dit, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Quelle est l'importance de ce festin? Un festin, dans la culture biblique, symbolise au moins deux choses. La victoire et la proche amitié. Spurgeon, un prédicateur anglais, disait « Le soldat en guerre mange un casse-croûte. Le festin vient après la victoire. » Ça veut donc dire que David est confiant qu'avec Dieu, il triomphera même de la vallée de l'ombre de la mort. D'ailleurs, quelqu'un a remarqué que la vallée de l'ombre de la mort, pourquoi est-ce qu'un berger ferait passer son troupeau dans une vallée? On ne vit pas dans une vallée de l'ombre de la mort. On n'établit pas sa tente là-bas. C'est pour passer d'un point à un autre. On est obligé de passer. Peut-être qu'il n'y a plus d'herbe à gauche et on doit passer à droite. Et on passe. C'est un point de transition, que ce soit dans notre vie de ce côté de l'éternité ou que ce soit la mort pour passer de l'autre côté du festin. La vallée de l'ombre à mort est un lieu de passage. Et ce n'est pas un endroit où on demeure. Ça peut aussi nous encourager si on passe par des moments difficiles en ce moment. C'est un lieu de passage. Et l'Éternel est notre berger. Et il sait où est-ce qu'il nous amène. Je reviens. Donc dans la culture biblique, le festin entre deux parties impliquait une loyauté mutuelle aussi. On ne mangeait pas avec n'importe qui. Ça voulait dire qu'on se faisait confiance. Et un repas pouvait être le gage décisif d'une alliance. C'est pour ça que Jésus a célébré la scène, qu'on va célébrer ensuite, ici, après le message. Il a dit que c'était la nouvelle alliance qui était scellée en son sang, qu'on prenait, quand on prenait le vin. C'était beaucoup plus qu'un simple repas. C'était le repas de la nouvelle alliance. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la théologie qui se cache derrière un bon repas ? C'est important pour les Français, pour les Suisses, il me semble, de réfléchir à la théologie d'un bon repas. Anna et moi, on lit en ce moment « Le Seigneur des Anneaux ». Tolkien décrit super bien l'ambiance. Il est fort pour les détails, hein, le Seigneur des Anneaux. Il décrit super bien l'ambiance des fêtes et l'importance des bons repas entre amis. Alors c'est un roman d'aventure, on devrait se concentrer sur l'action et « Allez, on avance !» Ah, mais il prend du temps pour décrire combien c'est excellent de se retrouver entre amis pour manger un bon repas ensemble. Et dans les moments les plus difficiles du roman, parfois ils réfléchissent aussi à leurs bons repas qu'ils ont mangés dans le passé et aux fêtes qu'ils vont avoir après la victoire. Nous sommes, tout être humain, est créé pour un festin. Tout comme je l'ai dit, on est créé pour désirer Dieu, créé pour être satisfait en Dieu seul. On est aussi créé pour ce festin que Dieu prépare. Et si on est chrétien, un jour on va être à table à ce festin. On voit aussi que ce festin est organisé en face de mes adversaires. Les adversaires de David sont impuissants pour l'empêcher. Ce festin va être organisé bon gré, mal gré, mes adversaires. Donc, ce festin est organisé par Dieu lui-même et les fêtes, peut-être la chose qu'on peut retenir ici, c'est que les fêtes, les festins, les agapes ici-bas sont un pâle écho de la fête qui se prépare là-haut, au retour de Jésus. Encore, la fête sera l'occasion d'être en présence de Dieu lui-même. Et justement, puisqu'on a besoin de Dieu pour être satisfait, c'est excellent. C'est Dieu qui rafraîchira les invités avec de l'huile. Ce n'est pas tout à fait une coutume suisse ou française de mettre de l'huile sur la tête, mais je suis sûr qu'on va bien s'habituer. Et c'est Dieu qui nous servira à boire. Nous sommes créés pour être satisfaits par Dieu seul. Et là, la fête qui attend est organisée et servie par Dieu lui-même. Deuxième aspect formidable de cette fête, c'est que la fête nous poursuit. Alors là, c'est un peu bizarre. Mais regardez, verset 6, première phrase. La plupart de nos traductions ne le montrent pas parce que c'est bizarre. La phrase que j'ai, moi, c'est « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Mais le verbe « m'accompagneront », c'est en réalité la plupart du temps utilisé pour décrire comment les ennemis nous poursuivent. Et ici, c'est le seul endroit de toute la Bible où quelqu'un a pris le mot « poursuivre » pour les ennemis, l'action maléfique d'ennemis, et il a mis ça avec « le bonheur et la grâce de Dieu me poursuivent tous les jours de ma vie ». Ce ne sont pas ses adversaires à David qui le poursuivent, mais c'est le bonheur et la grâce de Dieu qui le poursuivent. Voilà encore comment Dieu est bon. Si vous êtes là à entendre ces paroles, à lire ce psaume avec nous, c'est parce que le bonheur et la grâce de Dieu vous a poursuivi encore ce matin. Et peut-être qu'il est temps de céder à ses avances. Découvrez Dieu en tant que berger. Troisième aspect formidable de cette fête, c'est que cette fête est éternelle. David termine avec une note confiante, le psaume, « Je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. » Je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. La fête que prépare l'Éternel est éternelle. David le sait et s'en réjouit. Cette fête est offerte à tous ceux qui ont Dieu pour berger. Donc voilà le psaume. En conclusion, on va regarder deux choses. Un, on va se poser une question. Comment savoir si ces promesses sont vraies pour moi ? Parce que ce n'est pas juste une question de bêtement prendre ce texte et de se dire « Ah ben voilà, c'est pour moi. » Est-ce que vraiment c'est pour moi ? David était confiant. Est-ce que je peux être aussi confiant que David ? Et ensuite, on va regarder, vraiment en conclusion finale, comment on peut être encore plus sûr que juste par ce psaume. Il y a un texte magnifique dans Ésaïe 40. N'ouvrez pas votre Bible là-bas. On ne va pas rester trop de temps là-bas, mais Ésaïe 40, c'est un chapitre qui décrit l'action de Dieu futur, l'action future de Dieu pour son peuple. Et le verset 11 dit, donc annonce que Dieu va venir parmi son peuple. Et verset 11 dit, comme un berger, il fera paître son troupeau. Dans son bras, il rassemblera des agneaux et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Donc, il va venir comme un berger, il va rassembler les agneaux et il les portera. Et avec Anna, dans des moments difficiles, qu'est-ce qu'on s'est dit ? Ça doit être bon d'être dans les bras de l'Éternel, comme un agneau dans les bras d'un berger. Mais le comble, c'est qu'en se disant ça, on réalisait, mais même là, on doute. Qu'est-ce qu'il veut de moi, le berger, là ? Il va me faire un méchoui ou quoi ? Pourquoi il me porte ? On va où, là ? Qu'est-ce que tu veux ? Et notre cœur est tellement tordu qu'on n'arrive pas à faire confiance à l'Éternel. Le berger a bon être parfait. C'est nos cœurs imparfaits qui sont le problème et on est incapable de vraiment faire confiance à Dieu, le seul être digne de confiance. Et c'est pour ça que c'est important de se demander, est-ce que ce psaume est pour nous ? Et je réponds oui, voici pourquoi. Ce texte que je viens de lire, d'Ésaïe 40, annonce que Dieu va venir tel un berger, qui va nous prendre comme des agneaux, qui va s'occuper de nous. Et ce texte s'est accompli. Après des années de mauvais bergers, de mauvais rois sur le peuple de Dieu, ce texte s'est accompli par la venue de Jésus. Dieu lui-même est venu, il est devenu homme. Et dans Jean 10, verset 11, Jésus dit « Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et effectivement, ce bon berger Jésus donne sa vie pour ses brebis. Il meurt à notre place. Lui, le seul homme sans péché, il prend nos fautes. Il meurt à notre place. Il subit à notre place la punition qu'on méritait. Et après être mort, Dieu l'a ressuscité et l'a établi roi sur son peuple. Et depuis, Jésus règne. Et il reviendra à n'importe quel instant. Et d'ailleurs, le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, décrit aussi Jésus comme agneau et comme berger. Et donc, pourquoi est-ce qu'on peut dire que ce psaume est pour nous ce matin ? C'est que si nous sommes disciples de Jésus, si nous croyons que Jésus est ce bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis, ce texte est pour nous, car Jésus est ce berger du psaume 23. Et on peut entièrement lui faire confiance. Et alors, comment être encore plus encouragé à lui faire confiance que juste ce psaume ? En lui-même, le psaume 23 est largement suffisant pour faire confiance à Dieu. Hein ? Sa parole n'a pas besoin d'autres paroles. Mais Jésus, à la croix, offre une confiance encore plus grande. Qu'est-ce que je veux dire ? Parce que la suite de l'histoire est encore plus encourageante. La plus belle promesse que le bonheur et la grâce nous poursuivront tous les jours de notre vie, c'est que Dieu nous a poursuivis en venant vers nous, en devenant un homme. Dieu ne va pas s'arrêter d'être notre berger parce qu'on tombe dans le péché, parce qu'on met en doute, parce que justement on sort nos propres plans foireux. Jésus est mort pour nos péchés, il est ressuscité, nous sommes pardonnés, Dieu n'est plus en colère avec nous si nous sommes disciples de son Fils Jésus. Dieu n'est plus en colère, Jésus a porté cette colère et a apaisé cette colère à la croix. Si nous croyons ça, nous sommes disciples de Jésus. Il est notre roi, nous sommes ses sujets, Jésus est notre berger et nous sommes son troupeau. La croix de Jésus est la plus grande marque d'assurance ultime que ce psaume est vrai. Jésus est le bon berger qui donne sa vie pour nous, ses brebis. Il n'y a pas plus grande preuve que Dieu est un berger digne de confiance que la croix de Jésus-Christ. Et quand on regarde à la croix de Jésus, on peut dire avec l'apôtre Paul, là je cite Romains, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. » Je relis cette dernière phrase. « Ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. » Je propose de terminer en lisant le psaume 23. On termine comme on a commencé. Psaume de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Seigneur, merci pour ce psaume qui a aidé des millions de chrétiens depuis des milliers d'années dans les moments les plus sombres de leur vie. Seigneur, je te demande, s'il te plaît, de continuer à faire ça en nous par ta parole et par ton esprit. Seigneur, merci pour ces textes. Merci qu'on a ce psaume dans notre langue et merci qu'on peut l'apprendre par cœur, qu'on peut se le réciter, qu'on peut te prier. Et Père, aide-nous à te faire confiance. Garde-nous de douter de ta bonté dans les moments les plus difficiles de notre vie. Aide-nous à toujours nous reposer en toi. Ouais, Père, tu connais chaque personne ici. Tu sais quelles sont les tempêtes de la vie en ce moment. Tu sais peut-être aussi comment peut-être les choses vont bien et on apprend aussi là, on a du mal aussi à te faire confiance parce que tout va bien et on fait nos propres projets. Seigneur, s'il te plaît, chacun ici, aide-nous, Seigneur, tous, à nous reposer entièrement et uniquement en toi et à te suivre joyeusement, docilement, comme des brebis suivent leur berger. Seigneur, s'il te plaît, sois notre seul maître, notre seul roi. Et merci qu'en Jésus, on a la preuve ultime et absolue que tu es digne de confiance. Tu as tout sacrifié pour nous pardonner, nous réconcilier avec toi. Merci, Seigneur, pour ce magnifique texte. Amen.